La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités. Bonjour à tous, à tous nos auditeurs. Bonjour Dominique, heureux de nous retrouver pour notre émission La vie avant tout.
Bonjour mon père et bonjour à chaque auditeur.
Alors nous poursuivons notre émission La vie avant tout. Nous allons revenir un petit peu sur les dernières émissions, sur l'Église verte et sur l'écologie intégrale. Et ensuite nous parlerons aussi du thème actuel, le carême et le réchauffement climatique.
Merci, merci mon père. Donc effectivement, on revient un petit peu sur en cette période de début de carême. Donc, vous écouterez peut-être l'émission, on sera en plein carême. Et donc, l'Église verte, déjà, j'espère que déjà dans vos paroisses, vous avez entamé une démarche d'Église verte. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'Église verte. Et à partir du moment où vous avez l'intention de mettre en place une démarche, et bien, vous êtes déjà au niveau 1, donc volonté de mettre en place une démarche. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Église verte. Donc c'est très simple. Et comme je vous préconisais la dernière fois, c'était de commencer par le plus facile. Donc l'idée, c'est à votre réunion de paroisse de partir d'une feuille blanche et de dire par quoi on pourrait commencer. Donc c'est très très simple. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et vous énumérez les différentes thématiques. Donc je vous invite à traiter en premier le transport, parce que c'est le premier thème à traiter, puisque c'est l'impact en termes de gaz à effet de serre. Le premier impact est lié au transport. Donc transport des individus, transport des matières. Donc je vous invite à commencer votre premier plan d'action, simplement, avec un petit tour de table, et de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concernant le transport? Donc, vous avez des petites idées toutes simples à mettre en place, telles que le covoiturage. Donc, comment mettre en place le covoiturage dans notre paroisse? Qui pourrait aller chercher qui? Et de faire peut-être des petites annonces. Donc, moi, j'ai commencé dans ma paroisse. Donc, à la fin, dans les messages, de temps en temps, prendre la parole dans le moment où on dit un peu l'actualité de la paroisse, d'inviter chacun à pratiquer le covoiturage et que petit à petit, aider un peu les gens à voir qui pourrait emmener qui et aussi de faire de l'intergénérationnel. Donc, c'est très intéressant que les plus jeunes aillent chercher les plus anciens. Donc, c'est très, très important. Bien évidemment, au niveau transport dans la paroisse, se poser toujours la question, ce que j'achète, ça vient d'où? Bien évidemment, essayer d'acheter en circuit le plus court possible. Donc, tout ce qu'on achète, produits alimentaires, produits d'entretien, lessive, tout ce qu'on achète, se poser la question d'où est-ce que ça provient et toujours d'essayer d'acheter en circuit le plus court possible. Donc voilà, on invite tous nos auditeurs à se lancer dans la démarche et à commencer par une feuille blanche et sur la thématique du transport. Après, je vous invite à vous lancer sur la thématique de l'énergie. Donc, ce n'est pas un thème qui est toujours facile à aborder dans nos églises, puisque c'est la dimension économique. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça serait bien qu'on soit tous au courant. Quelle est notre facture énergétique? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la diminuer? Donc simplement de le savoir, c'est déjà bien, puisqu'on a comme slogan, nous, dans les hôteliers que j'accompagne, « mesurer pour progresser », et donc simplement de le savoir. Donc prochaine réunion de paroisse, on a payé combien de factures d'électricité, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer nos consommations électriques? D'accord. Donc je vous rappelle, à titre d'information, l'éclairage sur une facture d'électricité, ça ne représente que 5% des nombres de kilowattheures utilisés. Donc, faire attention à l'éclairage, c'est très très bien, mais ce n'est pas avec ça qu'on va économiser le plus de kilowattheures. Ce sur quoi il faut faire très attention, c'est la production d'air chaud, d'air froid pour ceux qui ont la clim l'été, et surtout la production d'eau chaude. Donc, regardez bien à combien sont réglés vos cumulus, et donc essayez de prendre un thermomètre basique, et regardez à combien sort l'eau chaude simplement à votre robinet. Donc, pour détruire la légionellose, il faut être à 55 degrés. Donc, la légionellose, c'est une maladie qui existe dans l'eau. Donc, il faut être à 55 degrés pour détruire la légionellose. Donc, regardez que vous soyez bien minimum à 55 degrés. Et après, tous les degrés au-dessus, ben, ça s'appelle du gaspillage énergétique. Si vous avez une eau qui sort à 70 degrés, il n'y a aucune raison d'avoir une eau à 70 degrés en sortie de robinet. Donc, ça veut dire que vous chauffez de 15 degrés de trop votre eau chaude, ce qui est complètement inutile. Donc, ça vous coûte très cher pour pas grand-chose. Donc, je vous invite vraiment à le regarder. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel petit thermomètre, ça marche. Bon, faites attention que ce soit un thermomètre qui va sur l'eau, qui va sous l'eau, mais voilà. Mesurez votre température d'eau chaude, c'est très important. S'il y a des gens d'église ou de couvent qui nous écoutent, eh ben, essayez de le faire dès que vous aurez écouté cette émission, ou vous quittez l'émission et vous allez mesurer à quelle température sort votre eau chaude. D'accord ? Donc 55 degrés, c'est très bien. Au-dessus, c'est du gaspillage énergétique, ça ne sert à rien qu'elle soit au-dessus de 55 degrés. Une autre petite technique qui est très importante, c'est quand vous utilisez l'eau à la maison, toujours tourner le robinet du côté froid. Donc c'est très important, parce que si vous le laissez du côté chaud, quand vous allez ouvrir le robinet, vous allez appeler de l'eau chaude, mais comme l'eau qui est dans le tuyau, elle est froide, et ben vous allez d'abord attirer l'eau froide. Et du coup, toute l'eau qui va sortir de votre robinet et qui est froide, eh ben c'est l'équivalent, ben c'est ce qui est sorti de votre cumulus. Mais si vous utilisez l'eau que quelques secondes, ben l'eau chaude n'a pas eu le temps d'arriver. C'est-à-dire que vous êtes lavé les mains à l'eau froide et pourtant, vous avez mis de l'eau froide dans votre cumulus. Donc, quand vous avez besoin d'eau froide ou que vous savez que vous n'allez pas utiliser d'eau chaude, toujours mettre votre robinet du côté de l'eau froide. D'accord ? Pas si vous comprenez bien l'explication, mais c'est très important. D'accord ? C'est des petites astuces, mais qui sont très importantes. Hein. Ça a été mesuré à la maison, ça représente à peu près 5 euros par mois. Donc, cette petite pratique-là, toujours mettre du côté de l'eau froide. D'accord ? Bien évidemment, si vous avez besoin d'eau chaude, ben vous mettez du côté chaud et vous attendez jusqu'à ce que l'eau chaude arrive. Mais si vous l'ouvrez que pour quelques secondes, c'est complètement inutile, puisque vous allez vous laver les mains à l'eau froide et vous allez enlever de l'eau chaude de votre cumulus pour la remplacer par de l'eau froide. Il faut savoir qu'en moyenne, l'eau froide des canalisations est à 17 degrés. Donc votre cumulus, s'il est bien réglé, vérifiez-le, il est à 55 degrés et vous venez d'y rajouter de l'eau à 17 degrés. Et donc cette eau que vous venez de rajouter à l'intérieur à 17 degrés, et bien évidemment, le thermostat va lui indiquer qu'il y a de l'eau froide qui est rentrée, il va redémarrer. Vous allez consommer de l'énergie pour rien puisque vous êtes lavé les mains à l'eau froide. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, pensez à faire ça. C'est important d'avoir ces petites habitudes et de les mettre en place. Donc, 1. Vérifiez la température de votre cumulus. 2. Toujours tourner le robinet du côté de l'eau froide à la fin de chaque utilisation. C'est très, très important. Donc, pour la paroisse, donc, on a dit, hein, 1. On part d'une feuille blanche, on essaie de discuter et de trouver des actions à mettre en place sur le transport. 2. On parle d'énergie et on regarde ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer nos consommations d'énergie. Je vous rappelle, la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience de combien on dépense chaque mois dans notre paroisse au niveau de l'énergie. Une fois que vous avez regardé ça, simplement, on se dit, bah tiens, on voit que la facture est de tant, donc disons 100 euros. Sur ces 100 euros, on sait que l'éclairage, c'est que 5%. Donc 95% du reste de la facture, ça va être du chauffage, de l'eau chaude et ou de la climatisation. D'accord ? Donc à ce moment-là, on regarde quelles sont les utilisations de eau chaude, chauffage et climatisation et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces consommations. Donc j'étais dans une paroisse la semaine dernière où on disait pendant la fête d'un saint, on laisse l'église éclairée à la fin de la messe. Donc si vous connaissez cette pratique, je vous invite, alors je ne sais pas ce que dira, on va laisser la parole à notre Père François, mais ça n'a aucun sens. Donc je ne sais pas, ça a peut-être une valeur spirituelle, et encore, mais de laisser des guirlandes éclairées dans les églises sous prétexte que c'est la fête du saint, et on ferme l'église, la guirlande est en permanence éclairée, et elle éclaire pour personne, ça n'a pas... Alors, peut-être, mon père, est-ce que ça c'est une pratique qui se fait, qui a un intérêt ou pas ?
Alors, en ce qui nous concerne, nous, si on ferme l'église, on éteint aussi les lumières et donc aussi tout ce qui a servi aussi pour illuminer les statues, le saint, etc., même, y compris même les bougies, puisque voilà, on limite le risque d'incendie pendant la nuit. Mais en tout cas, oui, effectivement, il n'y a pas d'intérêt à laisser, même au niveau spirituel, à laisser éclairer alors qu'il n'y a personne.
Merci, mon père. Alors, je n'avais pas préparé, la question, mais la réponse m'intéresse beaucoup. Donc, si vous avez cette pratique dans votre église, on arrête cette pratique. On n'éclaire pas quand l'église est fermée, qu'il n'y a personne dedans, ça sert
sauf,
à rien.
Sauf, je dirais juste, pour la lampe de l'Eucharistie du tabernacle, qui, elle, doit rester allumée, signe de la présence réelle. Voilà, mais c'est une petite ampoule à très basse consommation. Donc, s'il n'y a que celle-là, ça va, ça n'aura pas un gros impact.
Très bien, merci mon père. Alors, y compris dans nos paroisses, si on a la possibilité, si on a des temps de prière, essayons d'avoir nos temps de prière, bien évidemment, dans des espaces qui correspondent au nombre de personnes qui vont se rassembler. D'accord, si on a la possibilité, bien évidemment, mais essayons de chauffer, si on sait qu'on va avoir 30 personnes à la messe, essayons de nous regrouper dans un lieu ou dans une église qui a une contenance de 30 personnes. Trop souvent, on a des très grands espaces, très difficile à chauffer pour un petit nombre de personnes. C'est comparable à moi ce que je fais dans l'hôtellerie. Quand on a un groupe de 20 personnes qui nous réserve une salle, on va leur trouver une salle pour 20 personnes. Et on ne va pas chauffer ou refroidir une salle de 100 personnes pour 20 personnes. Donc essayons nous-mêmes de le faire. Si dans nos églises, on a des espaces donc un peu plus fermés, avec différents coins dans l'église où on pourrait éventuellement se regrouper. Quand on sait qu'on est une petite vingtaine, je vous invite à se mettre dans cet espace le plus petit possible et être proches les uns des autres et d'éviter de chauffer toute l'église si on arrive à trouver des petits espaces. On voit des fois dans les églises, il y a des plus petits espaces comme ça à l'intérieur de la grande église. Je vous invite à le faire. Et même en termes de proximité, alors je ne sais pas non plus, on en discute avec le père s'il y a des consignes là-dessus, bon maintenant qu'on est sorti du Covid, mais de se mettre peut-être aussi un peu plus proche les uns des autres l'hiver, peut-être devant et tous ensemble, puisque du coup si on est devant, on est plus loin de la porte, et plus on est loin de la porte, plus c'est facile à chauffer. Donc, je ne sais pas si on peut donner cette consigne d'être le plus proche possible les uns des autres pendant les messes.
Mais oui, déjà, c'est une consigne spirituelle, puisque l'Assemblée, elle forme aussi une communauté. Donc, si on est très peu, c'est sûr que c'est mieux de se rassembler plutôt que d'être dispersé dans l'Église à droite et à gauche. Et puis, même du point de vue, du point de vue énergétique aussi, on parlait du chauffage, mais ça vaut aussi pour l'électricité. Au lieu d'allumer toutes les lumières de l'église, on peut allumer peut-être que les lumières, que certaines lumières qui éclairent les premiers rangs, plutôt qu'allumer toute l'église pour des personnes qui sont dispersées à droite et à gauche. Mais surtout spirituellement aussi, ça a un sens. Et des fois d'ailleurs, nous invitons, nous les prêtres, à ce que l'assemblée se regroupe pour que justement nous fassions un seul corps, comme on dit.
Très bien. Donc les deux vont dans le même sens et c'est très très bien. Donc chaque paroissien, merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Prochaine messe, on se met proches les uns des autres et le plus devant possible et on fait corps tous ensemble. Donc vous voyez, c'est des toutes petites pratiques qu'on peut mettre en place mais qui ont beaucoup de bon sens. Donc ça, c'est sur l'énergie. Sur l'eau, ben, bien évidemment, pareil, mesurer pour progresser. Quelle est notre consommation d'eau? Normalement, c'est peu. Si on a un petit espace comme nous dans notre paroisse où on a des plantes vertes, eh ben, on essaie d'avoir des espèces régionales donc, qui sont adaptées à la région. Donc en fonction de la région où on est, ben, on plante et on entretient des espèces végétales régionales. Et bien évidemment, on arrose dans la mesure du possible tôt le matin, d'accord ? Puisque je pense que pour beaucoup, ça, c'est évident, mais quand on arrose en fin de journée et que la terre a été chaude, il y a énormément d'évaporation. C'est comme si vous mettez de l'eau sur une plaque électrique qui est chaude, ben, il y a énormément d'évaporation. Quand on arrose le soir, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'était très intéressant aujourd'hui de mettre des actions concrètes à mettre en place. Vous savez qu'on a tous été formés à Église Verte et on veut vous transmettre ces bonnes pratiques concrètes à mettre en place. Un élément très important dans Laudato Si et qu'on retrouve aussi dans l'approche Église Verte, c'est de créer ces changements autour d'événements conviviaux. D'accord ? Donc c'est aussi important que les gestes qu'on va faire, que de ce changement, puisqu'on voit que le réchauffement s'accélère, donc il faut qu'on accélère nos bonnes pratiques. Et donc ce qu'on vient de dire aujourd'hui, par exemple, ben, on pourrait se le définir comme une charte de nos églises vertes, et systématiquement on l'applique, mais dans un esprit de partage intergénérationnel et de convivialité. Cette notion de convivialité est très importante dans l'écologie intégrale, puisque vous savez que ben, l'humain est au cœur de la démarche, et donc c'est vraiment très important. Donc je vous le souhaite de mettre en place ces bonnes pratiques dans la joie et dans le partage, et comme le réchauffement s'accélère, accélérons notre changement à la hauteur du réchauffement. Merci beaucoup à chaque auditeur, et au grand plaisir. Je laisse la parole au Père pour qu'il puisse conclure cette belle émission.
Voilà, merci Dominique. Et c'est vrai que c'est très important de rappeler tous ces petits, toutes ces petites actions que l'on peut faire au quotidien. J'en rajouterai juste une. C'est à propos des mégots de cigarettes pour les fumeurs, hein, puisque un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau s'il est jeté dans la mer ou voilà dans un étang ou dans un point d'eau. Donc et on note aussi 4000 substances toxiques pouvant polluer nos sols et nos océans. Donc, pensons pour les fumeurs à mettre les mégots dans un cendrier ou dans une poubelle qui ira aussi en recyclage ou à la déchetterie. Bref, mais en tout cas, ne pas le jeter n'importe où. Hein. Donc voilà, ça c'est des petites choses aussi, mais si chacun fait ses petites actions, ça peut devenir aussi des grandes actions avec des grands impacts. Positif, bien sûr. Donc, nous retrouverons avec joie la semaine prochaine pour aborder aussi ce thème du carême et du réchauffement climatique. À bientôt, à la semaine prochaine.
Au revoir à chaque auditeur et bon carême éco-responsable. Au revoir.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachalde et de ses invités.